Matin, par une lecture du texte de Romains chapitre 12. Oh, une petite partie. On va utiliser le. C'est autre chose. Ça peut se déplier. Bon, alors, j'aimerais vous dire que le message aujourd'hui, comme celui de la semaine dernière, est inspiré en partie, je dis pas totalement, mais en partie de ce livre. C'est un théologien australien, David Patterson, travaillant en Australie, travaille aujourd'hui, je pense, en Angleterre. C'est un théologien, ce n'est pas un chantre, mais il a écrit un livre sur toute la question de l'adoration, mais dans une approche théologique. C'est très intéressant parce qu'on a l'habitude, lorsqu'on veut s'instruire sur la louange et l'adoration, on a l'habitude d'acheter des livres écrits par des chantres. Et eux, ben, ils vont nous parler de chants puis de trucs d'adoration, mais il y en a très peu qui vont aborder la louange et l'adoration, mais dans un angle de théologie. Et moi, c'est à travers la faculté que j'ai connu ce livre-là. C'est Dominique Anger, qui est un des docteurs de la faculté, qui, dans son cours, recommandait ce livre-là. Et j'ai fait un travail dans son cours sur le sujet. Donc, ça s'appelle « En esprit et en vérité ». Donc, c'est tiré du texte de Jean, chapitre 4. Donc, lui explique les contextes de toutes sortes de textes du Nouveau Testament. Et c'est toujours intéressant d'aller aborder un sujet dans l'angle des théologiens parce que ça nous fait défaire toutes sortes de mythes et de concepts qu'on a. Comme je disais la semaine passée, on a l'habitude de comprendre l'Écriture à travers une première lecture. Tu sais, le premier sens qui nous vient quand on lit le texte, et si ça fait notre affaire, bien, on grossit ce sens-là et puis on fouille moins dans les contextes pour comprendre tous les arrière-plans. Pourquoi Jésus dit une certaine chose à une certaine femme, à un certain puits, puis Jacob, dans Jean chapitre 4. Alors, il y a toute une histoire derrière ça, si on l'a vu la semaine dernière. Aujourd'hui, je vais aller vers quelque chose d'un peu plus étonnant, et étonnant pour moi-même, parce que ça vient d'un autre cours de la faculté. J'étais un peu habité par ça ces temps-ci, évidemment. C'est que l'année passée, j'avais un cours d'herméneutique avec Dr Jabala, et puis... encore là, il faut faire des travaux. Et puis, en discutant avec Dr Jabala, je cherchais un sujet, puis c'était intéressant de jaser avec lui de ça. Puis ça m'a amené à faire un travail sur Romains chapitre 12, versets 1 à 2. Texte très connu, que j'aime beaucoup, que j'utilise souvent. Et à ma confusion, pour me rendre compte que le texte ne dit pas exactement ce que j'ai pensé pendant 25 ans qu'il voulait dire. Donc, bienvenue à la faculté. C'est ça que ça donne. Mais c'est béni, parce que tu dis, c'est pas grave de s'être trompé. L'important, c'est de ne pas rester dans l'erreur, plutôt. Je dirais ça comme ça. Non, en fait, c'est pas complètement dans l'erreur. On comprend le texte pour ce qu'il dit. Mais encore là, l'herméneutique, notamment, donc d'appliquer des règles d'interprétation justes pour comprendre un texte et encore là, le comprendre en fonction... des racines de l'Ancien Testament. Donc, si un texte est dans le Nouveau Testament, la plupart ont des racines ailleurs dans le Nouveau Testament. Et si on ne va pas chercher ces racines-là, ben, on va interpréter le texte, on va le sortir d'un contexte qui lui donnerait vraiment un sens beaucoup plus juste. Donc, et avant de lire le texte, j'aimerais aussi ajouter juste cette idée, c'est que je parle de louange et d'adoration, et je ne voudrais pas laisser entendre que c'est comme si on était défavorable à la louange, comme si on voulait ramener les choses à être très sèches, comme si on n'avait pas ici dans cette Église une vision sur toute la question de la place du Saint-Esprit, de la présence de Dieu. Vraiment pas. Je pense qu'on peut dire qu'on est une Église qui s'inscrit dans un certain sentiment continuiste, on peut dire ça. Tu sais, on croit à l'œuvre de Dieu, on croit au miracle ici, on prie pour nos malades, on fait des onctions d'huile ici. Et c'est dans le cadre de la vision de cette Église de s'attendre à Dieu. Donc, il y a vraiment une vie avec Dieu, il y a une vie, je dirais, presque subjective où on s'attend à Dieu, puis on veut voir Dieu agir, puis on veut voir ses clins d'œil. Donc ici, c'est quand même extrêmement... vivant, toute cette question-là. Mais maintenant qu'on sait que c'est vivant et que c'est là et que c'est important, maintenant, comment on doit le comprendre dans sa juste perspective aussi? Parce que c'est pas parce qu'on croit quelque chose qu'on a nécessairement mis ou compris les limites que l'Écriture ils mettent, et notamment la louange. Donc, vous vous souvenez que la semaine passée, j'ai beaucoup abordé toute la question de la louange, présence de Dieu et émotion. Et comment il est facile de mélanger ces trois choses-là, parce que effectivement, la musique est en tant que telle un élément qui est porteur d'émotions. Ça sert beaucoup à ça, la musique. Cette semaine, mardi soir, j'ai assisté à un concert qui était donné par un chef qui est le fils de pasteur Louis Bourque, Philippe Bourque, qui est chef d'orchestre maintenant, qui dirigeait un orchestre assez impressionnant, qui est l'orchestre de chambre de l'Université McGill avec une chorale. Ils étaient 200 sur la scène. Ça s'est fait à l'église Saint-Jean-Baptiste sur la rue Rachel. L'église était bondée. Et il a fait tout l'œuvre, l'oratorio de Mendelssohn, qui s'appelle Élysée. Donc, c'est tout Élysée dans l'Ancien Testament, en musique. Et c'est extrêmement émouvant. Ces grands compositeurs chrétiens qui ont composé à partir d'inspiration de l'Écriture, qui ont fait ressortir le message de l'Évangile. Ma femme et moi, on était là, on avait des frissons à entendre ça. Je me suis dit, il faut absolument que j'aille réécouter ça. Tellement que c'était beau. Donc, la musique, c'est porteur de ce genre d'émotion-là, et puis c'est magnifique. Cependant, la distinction à faire, c'est qu'il faut distinguer entre émotion et présence de Dieu. L'un peut aller avec l'autre, et quelquefois ne pas avoir de rapport. Donc, ce que je nous disais la semaine passée, c'est que l'émotion qu'on ressent nous parle beaucoup plus de nous-mêmes que de la chose à laquelle on est exposé. Parce que devant une chose à laquelle on est exposé, on peut avoir toutes sortes d'émotions différentes. Donc, l'émotion nous parle de nous, de comment on est, de comment on réagit, mais l'émotion n'est pas nécessairement en soi une vérité. Ce n'est pas non plus un mensonge. C'est juste une réalité humaine, une forme de réaction qu'on a. Il y a à peu près 20 ans de ça, et c'est peut-être à partir de là que j'ai été fasciné par le sujet des émotions et de la présence de Dieu, c'est qu'une personne était venue me voir à mon bureau, qui ne venait pas à notre église d'ailleurs, cette personne, et elle allait dans une autre assemblée, évidemment, et puis elle vivait un problème assez important, vraiment important, problème d'infidélité. C'est quand même très grave. Et cette personne-là n'était pas allée voir son pasteur parce qu'elle s'était dit... Il y a quelqu'un qui a dit, va décanter ça avec un autre pasteur du coin avant d'en parler au tien. C'est peut-être une bonne idée. Je ne sais pas, mais bref, cette personne-là que je ne connaissais pas, mais elle me connaissait, mais pas moi, parce que bref, pas important ça, me raconte sa situation, puis bon, OK. Puis, et là, elle m'explique qu'elle sent que Dieu est encore avec elle, malgré son problème. Fait que je dis, OK. Je dis, à quoi tu relis ça, cette certitude? Ben, elle dit, c'est que quand je loue le Seigneur le dimanche à mon église, elle dit, avant de rentrer, je sens que je ne suis pas sauvé à cause de mon péché. Évidemment, ça envoie des ondes très négatives, vivre comme ça. Ben, elle dit, quand la louange commence, elle dit, je sens la présence de Dieu, puis ça m'habite, puis là, les émotions viennent, je pleure, et puis bon, tout ça, puis là, Dieu, finalement, ça me confirme que Dieu est encore avec moi, tu sais. Et ça m'avait vraiment fasciné, je me suis dit, OK, ouais. Ça nous montre à quel point l'émotion et tout ce que ça amène peut pour certains devenir un moyen d'instruction sur Dieu. Et ça, c'est une erreur. C'est l'Écriture seule qui est notre instruction. Donc, si cette personne-là avait besoin d'avoir une assurance dans son salut, c'est dans l'Écriture qu'elle aurait dû le trouver. Mais voyez-vous, il y a cette tendance à vouloir rattraper en 30-40 minutes le dimanche un vide existentiel spirituel de la semaine. Et aujourd'hui, on est dans un monde qui détache tout, qui sépare tout. Donc, on est chrétien le dimanche à notre église, et pour beaucoup, on sort d'ici, puis là, on devient une autre sorte de personne pendant la semaine. Et puis la semaine, ça nous habite plus du tout. La vie avec Dieu, c'est plus trop là. Puis le dimanche, on a ce besoin de ressentir à nouveau. Fait que pour beaucoup, la louange est cette espèce de moyen de se reconduire, de se replacer dans l'ambiance. Et c'est une erreur parce que ce que M. Patterson essaie de nous faire comprendre, c'est que l'adoration, ce n'est pas des chants d'abord. Les chants en font partie. Mais adorer Dieu concerne notre rencontre avec Dieu dans tous les jours. Adorer Dieu veut dire, dans la Bible, rencontrer Dieu. D'où la raison pour laquelle Jésus dit, ce n'est ni sur cette montagne, ni sur cette montagne qu'on va adorer Dieu, mais c'est en esprit, en vérité. Donc, comment on va se rencontrer dans la Nouvelle Alliance, comment on va rencontrer Dieu, c'est à travers Jésus-Christ. Mais ça parle de rencontre avec Dieu, Jean 4, et non pas de chant, ni d'espèce de plénitude d'esprit qu'on peut penser avoir plus ou moins de façon variable. Une autre expérience qui est importante que je vous compte avant, qui m'a beaucoup alimenté, c'est que pendant plusieurs années, j'étais pianiste pour une organisation charismatique. De 1990 à 1994, M. Tremblay, je ne sais pas s'il est ici, Paul, il était là, on était ensemble dans cette affaire-là. Je ne nomme pas le nom de l'organisation, ce n'est pas important, mais j'étais pianiste parce qu'il n'y avait pas de pianiste et puis il m'avait demandé si je voulais m'occuper de la louange. Puis, il y avait un monsieur qui chantait. Puis moi, j'ai eu du bon temps avec ces gens-là. J'étais vraiment béni. Il y avait du monde, tu sais, une foi sincère puis viril. Puis, il y avait toutes sortes de monde là-dedans en même temps. Puis ce qui était assez fascinant, c'était qu'il y avait des gens que c'était leur seule rencontre dans le mois avec quelque chose de Dieu. Et c'est comme s'ils voulaient rattraper le vide du mois dans une seule avant-midi. Donc, ça devenait terriblement intense. Hein? Tu es déjà venu, tu as vu ce que c'était. Et moi, beaucoup de ces gens-là, je les connaissais, puis je suis devenu ami avec eux. Puis moi, j'essayais de les encourager, de dire, trouvez-vous une assemblée locale. Ça ne peut pas se vivre une fois par mois. Si vous vivez un peu toujours quelque chose avec Dieu, vous allez être moins dans la recherche d'une hyper-intensité, dans un moment hyper-concentré. Écoutez, j'ai vu des affaires-là étonnantes. J'ai vu toutes sortes de choses bonnes, puis j'ai vu toutes sortes de choses franchement mauvaises. J'ai vu beaucoup de choses pas vraies aussi. Des choses actées, des choses fabriquées d'avance. J'ai vu ça parce que je n'ai pas été là une fois. J'ai été là pendant 4 ans. J'ai vu des gens se complaire dans une supposée guérison qu'ils avaient là. C'était vraiment cute et le fun et buzzant de le dire, mais finalement, c'était pas gros, hein, Chicoutimi-Labbé. On voit les gens dans leur vraie vie après, puis je ne sais pas quelle sorte d'attention que les gens finissent par chercher pour montrer que Dieu est avec eux à travers tout ça. Puis ça, je me dis, OK, il y a un problème. Donc, l'adoration, ce n'est pas un truc qu'on vit une fois dans la semaine ou une fois dans le mois. L'adoration, c'est nous parle, et c'est ce qu'on va voir dans Romains 12, nous parle de l'étendue des choses de Dieu dans nos vies. C'est vrai à tous les jours. Donc, si vous appréciez chanter et louer Dieu le dimanche, ben, sachez que le dimanche, ça s'inscrit dans la continuité de ce qu'on est appelé à vivre pendant la semaine. Donc, la semaine aussi, on devrait avoir des actions de grâce pour tout ce que Dieu fait. On ne peut pas ne pas en avoir la semaine et soudainement en avoir plein le dimanche et retourner dans le murmure le reste de la semaine et se rebrancher. C'est pour ça que je disais qu'on est des êtres, on nous a appris à être divisés. On vit des choses et ça se résume à ça et après ça, c'est fini. Non, on est dans la continuité tout le temps. Donc, dans Romains chapitre 12, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Version Louis II. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, Ainsi, nous, qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Que la charité soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent, ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble et ne soyez point sages à vos propres yeux. Je fais juste une petite parenthèse. Le nombre de verbes conjugués ici sont des impératifs. Paul est en train d'expliciter ce qu'est marcher avec Dieu. Il n'est pas simplement en train de nous mettre sur des missions spéciales, faites ceci des fois, faites cela. Il est en train de dire, voici ce qu'est marcher avec Dieu, ces choses-là. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes, s'il est possible, autant que cela de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Et le chapitre 13 continue, le chapitre 14, parce que c'est une poussée, c'est une même vague dans le texte, et une vague qu'on ne doit pas séparer des versets 1 et 2. Ce que moi j'ai souvent pensé, j'ai l'impression que l'Épître aux Romains, il y avait le chapitre 1 à 8 qui disait quelque chose, les chapitres 9, 10, 11 qui est toute la question d'Israël, et j'avais l'impression que le chapitre 12, il y avait ces deux versets-là, 1 et 2, qui disaient quelque chose, après ça, et à partir du verset 3, Paul allait ailleurs. Mais ce que les théologiens nous font réaliser, c'est que les versets 1 et 2 introduisent une idée et le reste des passages qui suivent l'expliquent. Qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est peut-être ça qui était, en tout cas personnellement, une incompréhension que j'avais. Et j'ai vérifié cette idée-là. En allant chercher beaucoup d'ouvrages de théologie à la faculté, à un moment donné, j'ai demandé à Yann Larivière de me sortir mon livre sur l'Épître aux Romains. Il y en avait pas mal. Puis, je suis rentré dans ça, puis je dis, OK, c'est une idée qui revient, effectivement, de ne pas séparer les versets 1 et 2 du reste. Donc là, je vais vous lire un texte que j'ai écrit juste pour expliquer une couple d'affaires. Je trouve que ça va tellement plus vite quand on lit. Par crainte d'être légaliste, bien des chrétiens n'aiment pas utiliser les mots « obéissance » et « soumission ». Ces mots qui ne sonnent pas très créatifs et trop peu récréatifs. Dans un monde hédoniste, qu'est-ce que veut dire hédoniste? Hédoniste, c'est la doctrine philosophique grecque selon laquelle la recherche du plaisir et l'évitement du déplaisir constitue l'objectif de l'existence humaine. Donc, ce qui amène une question, existe-t-il chez les chrétiens une forme d'hédonisme en ce moment? Je pense que oui. On est dans un monde occidental, bourgeois, riche, et dans la, pour beaucoup, beaucoup de croyants, marcher avec Dieu devrait aller chercher cette forme d'hédonisme où il n'y aurait que du plaisir. Il faut que ça fasse plaisir, marcher avec Dieu. C'est-à-dire que ça ne peut pas être... On ne peut pas comprendre le discours de Paul quand il dit aux Corinthiens toutes les persécutions qu'il a subies, les 5 fois 40 coups moins 1 par naufrage. Ça nous sonne tellement étrange. On dit, il me semble qu'on ne peut pas être sauvé pour vivre des trucs malheureux de même. Parce que pour nous, Paul vivait ça dans le malheur, alors que Paul, lorsqu'il dit qu'il a vécu des temps difficiles, puis des persécutions, puis des coups de fouet, il va aussi poursuivre en disant, nous sommes les gens les plus heureux du monde. Donc, il y a quelque chose qui est déconnecté quelque part. Pour nous, bonheur, c'est absence de problème. Alors que pour Paul, les problèmes ne sont pas nécessairement une absence de bonheur. C'est une autre histoire. Voilà pourquoi bien des chrétiens de notre génération marchent... Non, j'ai pas fini de lire. Donc, je recommence la phrase. Dans un monde hédoniste, on préfère l'idée que notre marche avec Dieu viennent d'une poussée produite par Dieu et que seul l'élément du plaisir devrait nous faire agir, bouger, marcher avec Dieu. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens de notre génération marchent par buzz. Un buzz est un moment riche et instantané qui nous fait oublier notre misère. Mais en vain, de buzz en buzz et entre les buzz, c'est le grand vide. Pourtant, c'est dans la soumission et l'obéissance que se trouve la vie heureuse du chrétien. C'est dans le respect des petites choses voulues par Dieu qu'on atteint une certaine plénitude en Dieu. La parole de Dieu, donc les petites choses en question, c'est la parole de Dieu, l'instruction, la prière, la communauté, le service, la mission, le témoignage, le pardon, la libéralité, la communion avec Dieu. C'est dans ces choses qu'on atteint une certaine plénitude avec Dieu. C'est ce que Paul mentionne au chapitre 12 de Romains. La parole de Dieu, mais lorsqu'on les néglige, toutes ces choses, qu'est-ce qu'on fait? On a tendance, et ça on le fait tous, c'est pas le premier, on a tendance à vouloir se rattraper par un buzz. Donc, qui de nous va aller vers Dieu de temps en temps pour dire à Seigneur, je vis rien en ce moment, puis... Suite à une période de négligence, je sais que des fois on traverse des déserts aussi, ça ne veut pas dire qu'on est négligent, là, mais on voudrait que Dieu nous amène dans une expérience instantanée de quelque chose. Et souvent, Dieu ne répond pas. Et là, ça amplifie le problème parce qu'on a l'impression que Dieu nous a abandonnés en plus. Mais la réalité du problème, c'est on pourrait comparer ça à un couple. Si ça fait 4 mois que tu n'as pas parlé à ta femme, il se peut que pour te rattraper, tu aies envie de faire livrer un camion de fleurs au complet. Si tu fais ça, tu risques de recevoir le voyage de fleurs en pleine face. Ça ne remplace pas une négligence. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Plutôt de chercher de buzz, il faut juste recommencer les petites choses. Mais ça, c'est vrai dans toutes les formes de relations. Mais c'est vrai avec Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir des temps avec Dieu tous les jours. Il y a des journées que ça ne se peut pas pour toutes sortes de raisons, être occupé. Mais il y a une différence entre ne pas être capable d'être régulier à tous les jours et d'avoir passé plusieurs mois en ayant négligé. C'est pour ça que je dis souvent aux gens qui ont des problèmes, qui ont de la misère, c'est « Trouvez-vous une église. » Trouvez-vous une église. Trouvez-vous une église. Trouvez-vous une communion avec des frères. Reprenez la vie avec Dieu. Reprenez la lecture. Reprenez par la Dieu. Refaites-vous une santé. C'est un peu comme si on négligeait notre santé, puis tout à coup, un jour, on décide d'aller faire un sport super intense, on risque de crever là. Non, ça ne marche pas. Il faut se recommencer à s'entraîner, refaire les choses tranquillement. Se refaire une santé, manger mieux. Il faut faire toutes sortes de petites choses pour que la santé revienne. C'est tellement, tellement, tellement pareil avec Dieu. Mais lorsqu'on néglige ces choses, on se rattrape à coups de buzz. Être trop occupé aux choses de cette vie, richesse, travail, réussite, divertissement, nous vole littéralement notre vie avec Dieu. La beauté et la richesse de Christ est plutôt dans le renoncement à nous-mêmes. Voilà ce qu'est la vraie adoration au sens biblique. On ne rattrapera jamais en 45 minutes de chant le vide existentiel spirituel d'une semaine passée loin de Dieu. Donc, la différence entre l'adoration de l'Ancien Testament et l'adoration dans le Nouveau Testament est quand même assez intéressante. Dans l'Ancien Testament, l'adoration se faisait dans un lieu précis. On devait se rendre, notamment avant que le temple soit bâti à Jérusalem, on se rendait à Silo. Je ne sais pas tout de l'Ancien Testament, comment les gens vivaient leur relation avec Dieu. Je ne sais pas si on pouvait parler à Dieu de chez soi, probablement que oui, mais on voit dans l'Ancien Testament les gens se déplacer. Ça explique pourquoi Jésus dit à la femme dans Jean 4 que c'est ni sur cette montagne ni à Jérusalem. C'est que dans la pensée des Juifs et des Hébreux du temps, c'est que tu dois te rendre. Les musulmans pensent la même chose. Ils doivent aller à la Mecque. Il y a comme cette idée qu'il y a un lieu où Dieu serait plus présent sur terre qu'ailleurs. Donc, si tu vas dans ce lieu, tu te rapproches de Dieu. Et dans l'Ancien Testament, c'est quand même prévu comme ça. C'est comme ça que les gens le comprennent. La différence entre l'adoration, et ça ici, c'est le concept d'adoration. On va vers le temple ou vers Silo pour adorer Dieu. Mais dans la pensée des gens de l'Ancien Testament, adorer, ils ne s'en vont pas chanter des cantiques. Ils s'en vont rencontrer Dieu, faire une multitude de choses. Il y avait des sacrifices là-dedans, pour confesser leurs fautes. Ils pouvaient rencontrer un sacrificateur. Il y avait ça qui se passait. Donc voilà ce qu'ils allaient faire. Donc dans l'Ancien Testament, l'homme se déplace vers le temple. Dans le Nouveau Testament, ce qui est assez fantastique, c'est que Jésus-Christ, qui est l'incarnation du nouveau temple, c'est le temple qui vient vers nous dans la Nouvelle Alliance. Et c'est pourquoi Jésus lui dit, c'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, mais c'est en esprit et en vérité. Jésus devient le nouveau temple, et c'est à travers lui qu'on adore le Père. Jésus ne dit même pas dans Jean 4 que vous allez m'adorer moi. Dans Jean 4, il dit, les adorateurs que le Père demande passent par moi, je suis la vérité. Et c'est par lui qu'on a la nouvelle vie, par l'Esprit de Dieu. Esprit et vérité, d'où le titre du livre ici. Si vous avez une Bible pas loin, dans 1 Samuel chapitre 1, je veux juste vous prouver ce que je suis en train de dire. Au verset 3, vous avez Elkanah. Elkanah est un homme qui était marié à une femme qui s'appelait Anne. Et Anne était stérile. Et qui est Anne? Elle est la mère de qui, elle? De Samuel, le prophète Samuel, oui. Mais il est écrit au verset 3 que chaque année, Elkanah se rendait à la ville de Silo pour y adorer l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, et pour lui offrir des sacrifices. Donc, je veux juste vous faire voir que dans l'Ancien Testament, on voit le déplacement d'un homme. Si tu veux être entendu de Dieu, il y a comme cette idée, tu te rends là. C'est un lieu, mais c'est également un lieu habité par ce qu'on appelle des oints de l'Éternel, des sacrificateurs qui se tiennent là. Au verset 9, un peu plus loin, vous avez sa femme, Anne, qui, elle, avait de la tristesse parce qu'elle était stérile. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel, et ainsi de suite. Et là, vous avez cette discussion que je ne veux pas lire, mais entre le sacrificateur et Anne, il voit Anne dans sa tristesse, qui ne peut pas avoir d'enfant. Et c'est à travers le prophète qui va lui profiter, pas le prophète, mais le sacrificateur qui va lui dire, tu vas avoir un enfant. Et cet enfant, ça va être Samuel. Le but de ce texte-là, c'est juste de montrer un peu la mécanique du déplacement des gens. Ça se passe dans un lieu et ça se passe dans une rencontre avec quelqu'un. Et comme fait remarquer Patterson dans son livre, l'adoration, autant dans le Nouveau que dans l'Ancien Testament, ça s'adresse qu'au peuple de Dieu. C'est le peuple élu seulement qui peut rencontrer Dieu vraiment. Dans l'Ancien Testament, ça s'incarnait à travers Israël, la nation. Et dans le Nouveau Testament, Jean 4 encore, seuls ceux qui ont été élus font partie de ceux qui peuvent réellement adorer Dieu. Beaucoup de gens peuvent tenter de faire plein de toutes sortes d'expériences, mais les adorateurs que le Père demande, c'est intéressant. Patterson nous fait réaliser que Dieu non seulement demande des adorateurs, mais il les invite lui-même. Il les demande. Donc Jésus a dit à cette femme, ceux qui vont adorer, ils vont adorer en esprit, en vérité, les deux conditions. Une nouvelle vie produite par le Saint-Esprit à travers la personne de Christ vont devenir les adorateurs de Dieu. Et ça, si on regarde le reste du Nouveau Testament, ça s'incarne dans l'Église. M. Patterson dit quelque chose de choquant pour l'esprit de notre siècle. Il dit, nous n'adorons pas Dieu comme nous voulons, mais nous adorons Dieu à la manière de Dieu. C'est étonnant. Il dit, autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau, on n'adore pas Dieu comme on veut, on l'adore à sa façon à lui. C'est intéressant, non? C'est troublant aussi, parce que nous, on dit, hey, veux-tu bien nous laisser t'adorer comme on a envie de le faire? S'il vous plaît, quand même. On a des choses à dire. Vous savez, il y a un gars dans l'Ancien Testament qui a voulu aider Dieu. Lorsque l'arche a été déménagée, tu sais, quand David a déménagé l'arche, il voulait la ramener à Jérusalem, et puis c'est Uzza qui a décidé, lui, qu'il allait aider Dieu. Il est mort sur le coup. David a piqué une crise en disant, hey, Dieu, t'es vraiment sévère. Et c'est comme si Dieu disait, David, tu vas faire les choses à ma façon. Pourtant, David, c'est un homme intense, vrai, authentique pour Dieu, tout ça, puis plein de bons sentiments. Même ça ne dépasse pas la ligne, David. C'est fascinant, non? Un peu épeurant, dans l'Ancien Testament, en tout cas, sous la loi. Dieu est bon, hein? Nous autres, on est dans la nouvelle alliance de grâce. C'est béni parce qu'on serait peut-être mort, quelques-uns d'entre nous. On a eu des bonnes idées. Bon, je reviens sur une explication sur l'onction. J'expliquais la semaine passée qu'on a une drôle de conception de l'onction, nous, aujourd'hui, parce que pour nous, l'onction, c'est une intensité variable. Fait qu'on va dire, il y avait beaucoup d'onction, il n'y avait pas beaucoup d'onction. Alors que dans la parole de Dieu, l'onction, ça n'a pas de variabilité. En fait, c'est pas une vapeur de l'onction, c'est une fonction attribuée à des gens qui sont appelés à une fonction. Il y avait trois grands types d'onction dans l'Ancien Testament qui recouvraient trois sortes de personnes. Il y en avait peut-être d'autres, là, mais les trois principales, à tout le moins, les trois principales, ma femme à chaque fois me dit, « T'avais pas le bon nombre de doigts qu'elle a avec tes mots. » Donc, il y avait trois grandes fonctions dans l'Ancien Testament. Quelles sont-elles? C'est ça. Donc, le sacrificateur, le grand souverain sacrificateur, c'est le oin de l'Éternel. C'est pas pour rien que Elkana va à Silo rencontrer cet homme-là. Ils sont... Et ça nous explique un peu la présence de l'Esprit dans l'Ancien Testament et la différence avec le Nouveau Testament, parce que dans l'Ancien Testament, c'est un certain nombre d'individus à qui est faite la grâce d'être les porteurs de cette présence de Dieu de façon unique dans leur vie. Dieu, à travers eux, va faire des choses, va parler, va dire, va agir, va faire des miracles, va faire des choses phénoménales à travers ces hommes-là. Donc, le premier, c'est le sacrificateur. Vous avez la deuxième, qui sont des prophètes. Et les troisièmes, c'est les rois. Les trois sortes de oints. Les premiers sont de la descendance d'Aaron. Le premier grand souverain sacrificateur, on pourrait dire des prophètes qui sont de la lignée de Moïse, même si cette lignée-là n'existe pas officiellement, c'est que vous n'avez pas de prophètes dans l'Ancien Testament, les vrais prophètes, là, qui avaient le droit et qui pouvaient se permettre de parler sans citer Moïse. Ils sont toujours appuyés sur Moïse. C'est ce qui fait le développement de l'Ancien Testament. Moïse a d'abord parlé à travers les livres du Pentateuque, et après lui, ils doivent toujours s'en référer sur Moïse. C'était comme ça qu'on différenciait un vrai d'un faux prophète. Et c'est Moïse lui-même, dans Deutéronome 18, qui va prévoir la venue d'un autre prophète, comme lui. Et à la différence de lui, c'est comme si Moïse disait, il se peut que moi, vous ne m'ayez pas écouté, mais lui, gare à celui qui ne l'écoutera pas. Et il parlait de Jésus. Et la troisième onction, c'est celle des rois, qui s'incarne à travers notamment David et sa lignée, loin de l'Éternel aussi. Ça signifie que, en tout cas, pour les prophètes, mais surtout pour les rois et les sacrificateurs, littéralement, ils étaient loin. Il y avait une cérémonie d'onction d'huile sur leur tête. Les prophètes, un peu moins, on voit moins ça. Parce que certains prophètes n'étaient pas appréciés. On les tuait dans certains cas plutôt que des oindres. Mais si vous regardez ces trois ministères-là, les trois étaient des figures de Jésus-Christ et les trois se retrouvent dans la même personne du Messie. Tout revient à Jésus. Jésus est à la fois le grand souverain sacrificateur, il est à la fois le prophète attendu et il est aussi le roi des rois. Mais plus que ça, il est également le temple. Détruisez ce temple. Dans Jean 2, il dit « Je le rebâtirai en trois jours. » Donc, tout l'Ancien Testament nous parle continuellement de Jésus et tout pointe vers lui. Dans l'Ancien Testament, tous les moyens d'adoration se retrouvent en Jésus seul. Si on en vient à Romains chapitre 12. En passant sur l'onction, qu'en est-il du Nouveau Testament? Bien, le oint de l'Éternel, c'est Jésus-Christ. C'est lui. Le mot onction revient très peu souvent dans le Nouveau Testament. À ma mémoire, il me semble avoir vérifié qu'il y avait juste Jean qui utilise ce mot-là dans sa première lettre en disant qu'on a tous reçu l'onction. Il va être dit également qu'on est tous une race de souverains sacrificateurs, une race de sacrificateurs. Mais attention, on ne l'est pas à la façon de l'Ancien Testament. On l'est à travers celui qui nous a sauvés et qui habite en nous, Jésus-Christ, le oint de l'Éternel. C'est lui, là. Donc, évidemment, il n'y a plus dans l'Église ces fonctions-là de l'Ancien Testament. Et on voit que chez les catholiques, c'est resté beaucoup. Et même chez certains évangéliques. Moi, quand je suis déménagé au Saguenay, j'avais été surpris qu'il y avait des gens qui venaient me voir, puis souvent des gens qui avaient été catholiques une partie de leur vie, et ils venaient me voir pour que je prie pour eux. Bon, on fait ça, on prie pour les gens. Mais à un moment donné, il y a une dame qui me dit, c'est parce que si c'est vous qui priez, ça va se rendre plus vite au Seigneur. C'est tout à fait se dire, c'est des affaires d'abord. Puis on comprend, mais là, j'ai prié pour la femme, mais moi, je lui ai dit, madame, le Seigneur vous entend autant que moi. Et ce n'est pas parce que c'est moi qui lui parle qu'il écoute plus. Ah, c'est pasteur Réal, OK. Il ne peut pas lui dire non à lui. Mais voyez-vous, c'est une façon de voir de l'Ancien Testament qui s'incarne aussi dans le catholicisme, mais qui, au fond, dans l'Écriture, les fonctions restent, hein, les fonctions de pasteur, de docteur, de tout ça, c'est encore là. Ça se répand dans le corps de Christ de façon généreuse de la part de Dieu. Mais ce n'est pas la façon de l'Ancien Testament. Et l'Esprit-Saint n'est plus donné qu'à ces gens-là, il est donné à tout le corps de Christ. Parce que c'est par le Saint-Esprit, littéralement, qu'on entre dans une nouvelle sorte de vie. Donc, à la question, est-ce qu'on doit être baptisé du Saint-Esprit comme une expérience seconde? Ça ne peut pas être pensable. La régénération, c'est Paul qui le dit dans le troisième chapitre de Tite, on est régénéré. Nouvelle naissance régénérée par le Saint-Esprit. Donc, quel est le rapport entre tout ça et Romains 12? C'est là que c'est stupéfiant. C'est que c'est un peu comme si on nous disait, dans l'Ancien Testament, il y a une façon d'adorer Dieu, et dans le Nouveau Testament, on est dans une forme de continuité. Adorer veut toujours dire la même chose. Donc, c'est comme si on disait, la louange fait partie de l'adoration, mais l'adoration ne fait pas partie de la louange, nécessairement. L'adoration, c'est quelque chose de plus vaste que simplement la louange. C'est pour ça que je disais des fois, c'est curieux de dire, on a eu un temps d'adoration, mais l'adoration, c'est peut-être pas le bon mot à utiliser. L'adoration, c'est notre rencontre avec Dieu. Je relis les versets 1 et 2, pas le chapitre au complet. C'est qu'il faut juste remarquer que le sacrifice de Jésus-Christ à la croix pour nous, nous est comme dans une curieuse affaire, c'est comme s'il nous était redemandé de le faire aussi. Vous voyez, c'est ça l'élément troublant. C'est troublant. De vérité, disons-le de même. Il y a un des commentateurs sur l'adoration qui mentionnait que Jean 4 nous expose ce que Dieu fait, ce que Dieu demande, c'est lui qui crée l'adoration, qui appelle à lui les adorateurs qu'il demande. Donc, la partie de l'œuvre de Dieu, c'est ça. Et la réponse de l'homme, Romains 12, mais encore dans l'adoration, même si le mot adoration n'y apparaît pas, il est là quand même. Donc, je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, écoutez bien là, à offrir vos corps comme un sacrifice. Ce qui est un acte déjà posé par Christ. Dans l'Ancien Testament, on offrait le corps d'un animal en sacrifice. C'était une figure de Christ qui, lui, est le vrai sacrifice, l'agneau de Dieu qui a offert son corps en sacrifice. Et là, Paul envoie une troisième vague en disant, « Maintenant, vous, offrez vos corps comme un sacrifice. » On pourrait dire, « Oui, mais Seigneur, il semble que tu l'as fait, ce bout-là. » Pourtant, Paul va dire, « Non, non. » Offrez vos corps comme un sacrifice. Ça, ce n'est pas en vue du salut. C'est le sacrifice d'une personne déjà sauvée. Parce que le sacrifice, ici, il est vivant, il est saint et agréable à Dieu. S'offrir à Dieu avec toutes nos imperfections, puisqu'on a été parfaitement justifié, lavé, purifié, sanctifié par Dieu. C'est un acte de foi terrible que de dire, OK, malgré qui je suis, je m'offre à Dieu sachant que lui a décidé de me regarder en Christ. Ça rejoint Jean 4, les adorateurs que Dieu demande. Et là, il va ajouter, ce qui serait de votre part un culte, le mot culte fait référence à l'idée du culte dans l'Ancien Testament. Tout ce culte d'adoration qui était offert à l'Éternel, c'était le service d'adoration dans l'Ancienne Alliance. C'est le même mot que la Septante reprend, le mot latria. Et ce serait de votre part un culte raisonnable. Certaines traductions ont le mot spirituel aussi. Très intéressant. C'est un peu comme si Paul est en train de dire, vous, par la foi, devez maintenant manifester un renoncement et un don de vous-même, comme Christ aussi, pour servir Dieu. Offrez vos corps. Et verset 2, il dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et moi, une erreur que j'ai peut-être faite souvent, c'est de penser que le verset 2, c'était un truc pour découvrir la volonté et le plan de Dieu pour sa vie. Fait que je pouvais dire à des gens, écoute, prends bien les cours bibliques, ça va renouveler ton intelligence, et là, tu vas trouver la volonté de Dieu pour ta vie. Vous voyez un peu comment on peut le voir? Donc, volonté de Dieu dans le sens de le plan, ta vocation, parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, je pense que ça a probablement toujours été vrai, on appartient à Christ, mais on veut trouver sa vocation. On veut sauter toute l'étape de la volonté de Dieu primaire. Pour aller au niveau secondaire, moi, je veux servir Dieu, mais il n'est pas question que je serve dans des choses ordinaires. Je veux ma vocation. Je veux partir. J'ai vu ça il n'y a pas tellement longtemps. Quelqu'un veut être missionnaire. Je dis, oui, mais commence par appartenir à une église. Ça, c'était pas clair. Commence par servir là. Commence à être fidèle dans les petites choses. Puis c'était comme, non, mais moi je suis appelé, mais comment je peux savoir où? Tu sais, c'était un peu ça la question. Bien, là, tu es appelé nulle part. Là. Puis le danger, c'est que tu vas t'appeler toi-même. C'est d'autres qui vont t'appeler. Si tu es fidèle dans les petites choses, à travers le corps de Christ, des gens vont venir te voir. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aspirer, espérer, prier, intercéder là-dessus. Là. Mais c'est à travers le corps de Christ que les choses se passent. Mais voyez-vous, ce genre d'étape-là, on veut la sauter. Maintenant, le texte ici, son intérêt, c'est quand Paul dit « Ne vous conformez pas au siècle présent », ça fait partie de ce qu'il venait de dire également au verset 1 dans le sacrifice de soi. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ce n'est pas pour recevoir une révélation spéciale de votre vocation, c'est juste pour servir Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et c'est le reste du chapitre 12 qui mentionne toutes ces choses bonnes, agréables et parfaites qu'on est appelé à vivre, que je ne relirai pas. Mais Paul mentionne plein de choses sur le zèle, l'amour les uns pour les autres, le service, les dons spirituels qu'on reçoit. Il y a tellement de choses dans le chapitre 12. C'est comme si Paul disait, c'est ça marcher avec Dieu. C'est vivre toutes ces choses. Et pourquoi il y a un rapport? Pourquoi des théologiens font un rapport entre ça, ce chapitre-là, et l'adoration? Bien, c'est à cause de la façon que Paul adresse au verset 1. Offrez vos corps comme un sacrifice. Paul réutilise tout le langage de l'adoration, de la rencontre avec Dieu dans l'Ancien Testament à travers le sacrifice et tout ça. Il reprend exactement ce discours-là. Il utilise le mot culte en plus pour montrer que l'adoration à Dieu, c'est notre service pour Dieu dans tout ce que Dieu nous appelle à faire et à être pour lui. Donc, on ne peut pas rattraper, et là je reviens à l'idée du début, c'est comme si on voulait, nous, plutôt rattraper dans un court moment de louange le dimanche, ce qu'on pense être une adoration efficace pour pouvoir retourner dans notre rien existentiel le reste de la semaine. Alors que l'adoration, c'est toute la semaine, c'est toutes ces choses qu'on est appelé à vivre, imparfaitement sans doute, avec plein d'oubli, puis oui, peut-être, mais c'est pas grave, on continue, on le fait. Nous comprenons souvent ce texte comme un truc infaillible pour trouver la volonté de Dieu dans le sens de vocation. Donc, si je laisse Dieu renouveler mon intelligence, je pourrai mieux ensuite discerner le plan de Dieu pour ma vie. Mais non, Paul nous dit plutôt que la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, représente l'ensemble des éléments qui suivent les versets 1 et 2. L'appel dans le sens de la vocation en fait partie, mais n'est pas la chose principale ici. Avant de vouloir connaître l'appel auquel nous sommes destinés, il faut d'abord répondre à la volonté de Dieu dans les choses ordinaires. C'est-à-dire la volonté de Dieu qui nous instruit sur le plan de tout phénomène de notre comportement, notre témoignage à vivre dans la vie de tous les jours. Donc, c'est pour ça que selon David Patterson et de nombreux théologiens, ce texte du chapitre 12 de Romains est un enseignement sur l'adoration, la vraie adoration. On n'adore pas Dieu quand on chante, on adore Dieu quand on le sert. Incroyable. Je conclurai sur une idée. Qu'est-ce que c'est... Il faut juste que je retrouve mon point ici. Ah oui, c'est ça. Adorer Dieu, c'est l'ensemble de tout ce qui fait qu'on se rencontre avec Dieu. Et je ramène encore l'idée, c'est que c'est une continuité. Quand on vient à l'église le dimanche, on vient juste le vivre ensemble. Et Dieu le demande de se rassembler pour vivre ensemble ce qui fait partie de nos vies la semaine. À géométrie variable, c'est pas tout le monde qui est à temps plein dans ça, on comprend ça. Mais ça nous enseigne sur l'importance de savoir se mettre à part pour Dieu, de ne pas se laisser avoir dans des projets qui nous bouffent tout notre temps, qui fait qu'on n'a plus de temps pour nos familles, plus de temps pour nos enfants, plus de temps pour Dieu. On est occupé, je ne sais pas moi, à gagner de l'argent, à travailler, à faire plein de trucs, du sport. On peut tellement s'égarer dans un million de choses qui fait qu'à un moment donné, on tombe toujours dans le même piège. On va essayer de rattraper ça le dimanche matin pour se donner un boost. Puis là, on retourne dans notre vide. Alors que la vie chrétienne, c'est peut-être de renoncer à bien des affaires qui nous enlèvent notre vie avec Dieu, la continuité. Et quand on se réjouit ici le dimanche ensemble, on n'est pas en train de rattraper quelque chose, on est en train de le vivre ensemble pendant une couple d'heures, puis après ça, on retourne vivre ça dans notre quotidien, ici et là, avec nos amis, au travail, partout. On est toujours en Christ. Donc, j'adore l'Éternel quand je chante, quand je prie, quand j'écoute, quand je lis, quand je médite la parole, quand je témoigne, quand je suis un témoignage. J'adore Dieu quand je le sers ici et là dans mon église et ailleurs. J'adore Dieu quand je donne à Dieu ce qui lui revient, mes offrandes, la libéralité. J'adore Dieu quand je m'abstiens d'impudicité, quand je m'abstiens de tout ce qui n'est pas utile. J'adore Dieu quand j'obéis à Dieu, quand je décide d'aimer ma femme comme Christ a aimé l'Église, quand je décide d'être présent dans la vie de mes enfants. J'adore Dieu dans toutes ces choses-là auxquelles Dieu m'appelle. C'est ce qui fait une vie spirituelle un peu plus en santé. Il va y avoir des troubles, il va y avoir des difficultés, il va y avoir des persécutions, il va y avoir des sécheresses, il va y avoir de tout. Ça fait partie également de ce que Dieu nous fait vivre. Mais à tout le moins, il y a de la santé ici. Amen. Seigneur Dieu, on te rend grâce pour ta parole, on te rend grâce pour toutes ces choses qui ont été dites ce matin, Seigneur. Il ne faut pas que ça soit reçu comme étant un fardeau plus lourd. Seigneur, il ne s'agit pas de s'ajouter des choses. Il s'agit plutôt d'émonder. D'émonder nos vies de toutes ces choses qui peut-être nous volent du temps pour toi, nous volent du temps pour ce qui est précieux devant toi, Seigneur. Nous volent du temps pour te connaître. On peut même être tellement occupé à faire plein de choses pour toi qu'on en oublie de prendre du temps avec toi, Seigneur. Non, Seigneur, il ne s'agit pas d'ajouter des choses, il s'agit de renoncer aussi plutôt à des choses. Redécouvrir cette vie abondante que tu as pour nous, mais qui se passe dans une vraie, vraie, vraie et riche relation intime. Merci, Père, de bénir ta parole aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Amen. Bonne journée, bonne semaine, tout le monde.